Cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 13 novembre 1991.
Peut-on parler d'un quatrième niveau d'éthique, comme son sommet, celle de l'éthique catholique, cela à cause de l'obéissance, de la fidélité, de la paternité que nos frères protestants ne comprennent pas ou comprennent si difficilement. Et je dis non, parce que pour moi, l'éthique chrétienne, elle est catholique. Le philosophe prend l'éthique chrétienne dans sa plénitude, les trois nourritures. Parce que de fait, les séparations sont des séparations par rapport au tronc commun qui continue de s'épanouir. Et donc c'est une distinction qu'on fera à l'intérieur de la foi. Mais vu de l'extérieur, on prend la foi parfaite. La foi parfaite est catholique. Alors, autre question. Y a-t-il nécessairement un aboutissement de l'éthique religieuse vers l'éthique chrétienne, vers l'éthique catholique? Pour l'éthique religieuse de l'islam, par exemple, n'est-elle qu'une éthique religieuse achevée, ou a-t-elle comme un supplément qui fait qu'elle est plus qu'une éthique religieuse? Oui, je vois. C'est comme l'Ancien Testament. Quand je regarde l'éthique de l'Ancien Testament, elle est, j'allais dire, dans sa structure, elle dépend de la foi d'Abraham. Mais les commandements de Dieu sont dans leur structure éthique religieuse. Je crois. Pas un seul des commandements est plus que l'éthique religieuse. Alors, c'est un problème très délicat qu'au fond, au plan philosophique, au plan purement philosophique, hein, au plan théologique, c'est très simple à répondre. On en a pour une seconde. La grâce ne détruit pas la nature, mais la grâce n'est pas selon la nature. Oui, petite distinction très importante entre nature humaine et grâce. Alors vous dites, la grâce n'est pas contre nature humaine, n'est pas selon nature humaine. Elle est sur nature. C'est pas le rapport de la grâce et de la nature. Donc, la question posée, y a-t-il nécessairement un aboutissement de l'éthique religieuse vers l'éthique chrétienne? Vous devez dire que l'éthique religieuse n'appelle pas essentiellement, dans un ordre d'immanence, l'éthique chrétienne. Parce qu'autrement, vous diriez que la grâce est selon la nature. Or, elle est sûre pour manifester la gratuité. La grâce est donnée gratuitement. Donc, il n'y a pas un ordre essentiel et nécessaire. C'est des questions très, très, très délicates qui ont été reprises dans des débats et des pugilats très délicats avec certains théologiens de Rome, le père Gagnebé, et puis le père de Lubac. C'était ça, on est. Et au fond, quand vous lisez Blondel, parce qu'il faut de temps en temps parler de Blondel, étant donné que Blondel a eu une grosse influence sur la formation des séminaristes de ce milieu de siècle, vers 1930, 45, L'éthique religieuse ne peut pas être contre l'éthique chrétienne. Mais l'éthique chrétienne n'est pas selon l'éthique religieuse. Elle est surnaturelle. C'est très délicat, vous voyez. Au point de vue de la vie chrétienne assume la vie religieuse, assume l'esprit, donc la nature. C'est assumé. Et c'est transformé du dedans. C'est pour ça que je n'ai qu'une seule vie, ma vie chrétienne. La vie chrétienne assume ma vie religieuse. Donc, du côté de la grâce, je vois comment ça assume. Mais du côté religieux, je ne pourrais pas, par le point de vue religieux, comprendre ce que c'est que la foi. Il y a des âmes très religieuses qui comprennent absolument pas ce que c'est que la foi. Parce que la foi est surnaturelle. L'espérance est surnaturelle. L'éthique chrétienne est fondée sur quelque chose qui est surnaturel, qui ne peut pas s'expliquer par le point de vue religieux. Mais c'est pas contre. C'est une situation assez délicate. C'est pas comme du tout bien voir les rapports. Donc ça, au point de vue théologique. Au point de vue philosophique, je constate qu'il y a chez le chrétien, qui peut être philosophe, non, je constate en moi, en tant que chrétien et en tant que philosophe, que la foi me met au-delà de toute exigence humaine et religieuse. Elle me fait toucher quelque chose qui ne peut venir que d'en haut. Il faut naître d'en haut. Tandis que je ne dis pas qu'au point de vue religieux, il faut naître d'en haut. Au point de vue religieux, il faut être parfaitement humain. Tandis que la foi est surhumaine. Donc au plan proprement philosophique, je constate tout de suite que toute la vie chrétienne qui repose sur la foi et sur la foi chrétienne est quelque chose qui transcende. Donc, je ne peux pas dire, au point de vue purement philosophique, que l'éthique religieuse est ordonnée à l'éthique chrétienne. Je dirais que l'éthique chrétienne a quelque chose d'irréductible à la foi chrétienne. Et pas contre. Tout ce qui est exigé dans l'éthique chrétienne n'est pas contre l'éthique religieuse. L'éthique religieuse va s'achever, s'épanouir, être parfaitement elle-même dans une éthique chrétienne. Mais l'éthique chrétienne n'est pas présente dans l'éthique religieuse. Je crois que je ne peux pas dire plus. Je ne passe pas de l'un à l'autre. Pas. L'éthique religieuse, l'éthique chrétienne a une lumière qui vient d'en haut. Et cette lumière qui vient d'en haut ne détruit rien de ce qu'il y a d'humain, mais le surnaturalise, le divinise, et lui donne des exigences que l'éthique religieuse ne comprendrait pas. Et l'éthique religieuse ne comprend pas la sagesse de la croix. Elle ne la rejette pas. Au point de vue religieux, je ne peux pas la rejeter. Alors comment se fait-il que quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui a été chrétien, qui a rejeté sa foi chrétienne, et qui est philosophe, donc qui est humain, comment se fait-il qu'un Merleau-Ponty puisse dire que le christianisme va contre sa philosophie? Il y a un petit discours. C'est le discours de Merleau-Ponty quand il a été reçu au Collège de France, qui a fait un discours inaugural, qui est extrêmement intéressant sous ce point de vue-là. Qu'il faut lire et relire, parce que il se met dans la peau de Socrate. Il y a eu toute une opposition à ce moment-là par rapport à Merleau-Ponty en disant on ne va pas nommer au Collège de France quelqu'un qui se dit athée. Mais des réactions qui, aujourd'hui, n'existeraient plus. Mais qui, à cette époque-là, existait ? Il y a 40 ans. Et Merleau-Ponty, dans son discours au Collège de France, montre qu'il est comme Socrate, dans son humilité. Socrate, on l'accusait d'impiété, alors qu'il était le plus religieux de ce temps. On accuse Merleau-Ponty d'être athée, parce que tout simplement, il montre que l'attitude chrétienne n'est pas religieuse. C'est très habile, et c'est intéressant. Mais pour faire en parallèle, ce serait du reste intéressant, quelqu'un voudrait faire un petit travail là-dessus. Ce serait très intéressant de comparer l'attitude de Socrate et l'attitude de Merleau-Ponty. C'est intéressant, parce que c'est deux attitudes religieuses, mais totalement différentes. Et Merleau-Ponty dit que l'attitude chrétienne va contre l'attitude religieuse, parce que le Dieu des chrétiens va contre la transcendance de Dieu, que l'âme religieuse affirme comme la chose essentielle. On met Dieu dans le temps. Et donc, Dieu n'est plus l'éternel, il est dans le temps. On met Dieu avec des limites, l'humanité du Christ. Et comme si l'humanité du Christ pervertissait la transcendance de Dieu. Oui. C'est très intéressant à lire et à voir, point de vue éthique. J'avais rencontré Merleau-Ponty. Je l'ai regretté du reste parce que ça m'aurait intéressé. J'ai rencontré sa fille. Qui avait, et quelquefois, c'est plus intéressant. Elle avait 16 ans, 17 ans. Et alors on m'a dit, la fille de Merleau-Ponty est là. Alors je dis, oh, ça m'intéresserait de lui poser quelques questions sur son père. Alors elle m'a simplement dit, c'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Tiens. Je lui dis, mais pourquoi ? C'est pas drôle d'avoir un père philosophe. C'est pas drôle d'avoir un père philosophe parce que on ne le voit jamais. Il pense tout le temps. Je lui dis, oui, mais il pense bien. Ah, ça, je sais pas. Mais il pense tout le temps, alors il s'occupe pas de nous. C'était intéressant. Parce que ça montrait l'idéaliste de Merleau-Ponty. Je crois qu'un père qui a une philosophie réaliste s'intéresse à ses enfants. C'est un livre vivant de la réalité, de la nature. Et il doit, là, découvrir ce que c'est. C'est comme vous disiez, c'est pas drôle pour un philosophe d'avoir des frères de communauté. Parce qu'on est toujours dérangé. C'est vrai. Mais, c'est merveilleux parce que c'est un livre vivant. Bien mieux qu'un livre qui est dans la bibliothèque. Alors, je reviens au sujet qui nous intéresse. C'est pour montrer que ces questions-là sont très actuelles. Il ne faut pas dire du tout qu'elles ne sont pas actuelles. Le père, et ça demandait lui, le père Benoît vient de faire une conférence à Paris, puisqu'on fait un cycle ensemble, où il a montré comment la philosophie actuelle regardait le mystère du Christ. C'est intéressant. Je pourrais vous faire là deux petits cours là-dessus, ou trois petits cours là-dessus. Ce serait intéressant. C'est théologie, éthique chrétienne. Comment le philosophe d'aujourd'hui regarde le Christ ? Moi, je ne le fais pas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est intéressant de voir cela. Quelques philosophes modernes, la manière dont ils regardent le Christ. De Socrate à Jésus. Alors, comprenons que l'éthique religieuse a sa structure propre et elle n'exige pas l'éthique chrétienne. comprenez? Le chrétien assume l'éthique religieuse. Et l'homme religieux ne peut pas, en tant que religieux et en tant qu'homme, dire cette éthique religieuse demande de s'achever en éthique chrétienne. Parce que ça prouverait qu'il y a un ordre essentiel d'exigence nécessaire entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. La grâce chrétienne est donnée gratuitement. Elle n'est pas premièrement un achèvement de la nature humaine. Elle est premièrement un don gratuit de Dieu qui nous fait enfants de Dieu. Et secondairement, elle vient achever l'éthique chrétienne, l'éthique religieuse. En second lieu, elle l'achève, c'est très vrai. Jésus nous dit qu'il vient achever la loi. Mais Jésus n'est pas venu premièrement pour achever la loi. Il est venu premièrement pour sauver les hommes. C'est pas la même chose. Si Jésus était venu premièrement pour achever la loi, tout chrétien devrait passer par Moïse pour être chrétien. C'était une discussion dans les Actes des Apôtres. Est-ce que les Goïmes, les païens, doivent d'abord passer par Moïse avant de rencontrer Jésus? Et saint Paul a été farouche là-dessus. Pierre a hésité. Il a fallu l'éclairer par un songe merveilleux, étonnant, qui est dans les Actes des Apôtres, qui est très extraordinaire, où Dieu fait comprendre à Pierre ce que Pierre aurait été, voyez, un peu comme Galiléen, assez conservateur, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets. Il faut passer par tout ce que nous avons connu, quoi. Il y a un peu de ça, vous savez, dans beaucoup qui refusent le renouveau de l'Église. On considère que ce qu'on a vécu, c'était ce qu'il y avait de mieux, au point de vue christianisme. Donc il faut passer par là. C'est un manque de liberté intérieure. On ne voit pas la gratuité de la grâce. Alors Pierre pensait qu'il fallait nécessairement passer par Moïse, et donc la circoncision. Et l'Esprit Saint dit non. Le Christ n'est pas premièrement celui qui achève la loi. Si le Christ était premièrement celui qui achève la loi, il faudrait passer par la loi pour rencontrer le Christ. Mais si le Christ est premièrement fils de Dieu, il nous donne cette filiation gratuite. Et on touche des options très très importantes au point de vue vision chrétienne. Et je vous dis, ça se retrouve ici. Quand vous voyez l'option de Monseigneur Lefebvre, c'est ça. C'est qu'il faut passer parce que la tradition de l'Église, vous voyez, on identifie tradition et foi. La tradition est source de foi, mais elle n'est pas la foi. Parce que la tradition est passée par le vécu de l'homme. La foi est plus que la tradition, parce qu'elle est source. Et de temps en temps, Dieu nous fait remonter la source dans toute sa pureté. La source de la foi, ce n'est pas la tradition, c'est le Christ. Et c'est la révélation que nous donne Jésus. C'est pour ça que je suis persuadé que dans la mesure où cette attitude de Monseigneur Lefebvre continue dans l'Église, la foi ne pourra plus être contemplative. Pour eux, ce sera une foi liturgique, liée avant tout à la liturgie, liée avant tout au latin, une foi latine, et non pas la liberté de l'Esprit Saint. La foi nous libère et nous rattache directement au Christ. C'est très très important, ces choses-là. Eh bien, tous ces problèmes que nous touchons là, vous voyez, sont impliqués et impliquent ces problèmes-là. Donc, comprenons bien ce passage de l'éthique religieuse à l'éthique chrétienne. Alors, je continue. humaine dans son fondement. Et l'éthique humaine religieuse. La distinction entre ces deux éthiques est tout à fait différente que la distinction entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Deux relations totalement différentes, n'est-ce pas ? Autrement dit, entre 1 et 2 et 2 et 3, le rapport est tout à fait différent. Si, c'est bien la différence. Hein. Le rapport entre éthique humaine religieuse, le rapport est essentiel. Tandis qu'entre éthique humaine religieuse et éthique chrétienne, je ne peux pas dire qu'il y a un ordre essentiel, un katoto nécessaire. Que l'éthique religieuse, si elle n'est pas chrétienne, n'est plus totalement, n'est plus religieuse, n'est plus. Je pourrais dire que l'éthique religieuse qui n'est pas chrétienne n'est pas parfaitement religieuse. Pleinement religieuse. Oui, mais alors en comprenant que le pleinement, c'est grâce à cette gratuité de la grâce. C'est très curieux, vous voyez, les katotos d'Aristote vont exprimer ça parfaitement. C'est très étonnant, hein, alors qu'Aristote ne pose jamais de problème. Pour Aristote, il y a quatre katotos, nous l'avons vu l'autre jour, dans le petit cours, hein, dans le petit cours réservé aux plus intelligents. C'est bon, nous avons vu le quatre katotos. Premier, celui de l'essence. Deuxièmement, celui de la propriété. Celui du solitaire. Et celui de la finalité. On vous donnera la référence des quatre katotos, c'est facile. Ce gros analytique. Le reste, je ne le sais pas par cœur. Pas la peine, je saurais le retrouver dans le texte, je vous le donnerai. Parce que c'est intéressant, ça. C'est les quatre percées. Donc, les quatre liens de nécessité. Par où je peux édifier une connaissance scientifique. Alors, la propriété et la finalité, voyez très bien, entre 1 et 2, vous avez ce lien-là. Entre 2 et 3, la finalité. Du côté de la finalité religieuse trouve son achèvement plénier dans la finalité chrétienne. Mais du côté de la structure de pensée, katoto, essence et propriété, il n'y a pas de lien nécessaire. Ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Hein. C'est les liens au niveau de la structure d'une science. La structure d'une science implique des liens selon la cause formelle. Puisqu'on aboutit à une propriété comme conclusion. Tandis que les liens de vie au point de vue finalité impliquent des liens qui sont différents. Peut-être dans un langage moderne, vous comprendriez mieux de dire ceci. C'est ce, ici, vous avez des liens essentiels. Ici, un lien existentiel. Là, on comprend tout de suite. Parce que c'est la finalité, c'est au niveau de la vie. Et ici, c'est au niveau de la structure formelle. La science donne une structure au niveau essentiel. Ne donne pas une structure. apprenez vos sciences. Du moins, j'espère. On vit au niveau finalité. Mais à quelqu'un d'intelligent, c'est que c'est très important de structurer les liens d'essence et de propriété. Donc, réfléchissez-moi là-dessus. De temps en temps, il faut que les cours vous donnent à réfléchir. Et ça vaut la peine. C'est intéressant, ces choses-là. Donc, je reviens sur les liens entre l'éthique humaine fondamentale et l'éthique humaine religieuse. Je dis ceci, vous allez bien saisir. L'éthique humaine implique deux moments de réflexion. Mais ces deux moments de réflexion sont liés essentiellement je ne peux pas m'arrêter au niveau éthique humaine, à l'éthique humaine fondamentale. Pourquoi ? Parce que le fondamental n'est pas la finalité. Et dès que je suis au niveau éthique, la finalité structure l'éthique. Or, la finalité de l'homme est une finalité religieuse. Retrouver sa source. La différence avec les mathématiques. Les mathématiques n'ont pas besoin de se structurer par le point de vue religieux. Il y a des mathématiciens qui sont extraordinairement forts comme mathématiciens et qui sont hors religieux. Et vous n'allez pas dire, monsieur, vous vous trompez, vos mathématiques ne sont pas religieuses. Vous rirez au nez. Les mathématiques ne sont pas religieuses, essentiellement. Et donc les mathématiques se structurent indépendamment du point de vue religieux. Mais l'éthique philosophique ne peut pas se structurer pleinement au point de vue humain sans le point de vue religieux. Parce que elle regarde la finalité de l'homme. Or la finalité de l'homme, c'est qu'il doit rejoindre sa source première, puisqu'il est esprit. Et sa source première, c'est Dieu créateur. Et donc l'attitude religieuse est impliquée dedans. Je crois que ça, on peut le comprendre assez facilement. Un autre problème, qui est aussi très actuel, vient de paraître une éthique, philosophie éthique. Je n'ai pas là, mais je vous le passerai. D'un professeur à l'Institut catholique de Lyon, donc faisons attention, qui dit que l'éthique est nécessairement religieuse et premièrement religieuse. Alors j'ai dit attention, distinguons l'aspect fondamental et l'aspect finalité. C'est pas la même chose. Alors, l'éthique est quelque chose de tellement important que nous devons faire la distinction entre les deux. Autrement dit, voyez, pour lui, l'éthique se structure par le point de vue religieux. On serait tenté de faire ça. Hein. L'éthique humaine est religieuse. Alors, on n'a pas besoin de passer par l'éthique humaine fondamentale. On est tout de suite religieux. Pourquoi ? Je n'accepte pas cette position. C'est parce que nous sommes en philosophie. Dans la vie, je dirais que, en effet, au point de vue vital, au point de vue existentiel, l'éthique humaine est religieuse. Mais au point de vue philosophique, où je suis dans l'analyse, qu'est-ce que c'est que l'éthique, d'abord ? Qu'est-ce que c'est l'acte éthique, l'acte moral ? Et j'étudie l'acte moral. j'ai dit que l'acte moral a en lui-même sa propre structure. Et que cette structure ne sera parfaitement morale que lorsqu'elle deviendra religieuse. Autrement dit, je dis que l'éthique existe à partir du moment qu'il y a un amour volontaire, libre. Or, un amour volontaire, libre, peut exister à un niveau purement humain. L'amitié. Si l'amitié existe, elle n'est pas nécessairement religieuse. Et l'amitié me fait découvrir ma première finalité. Génétiquement, ma première finalité. Je ne demande pas premièrement à un ami, es-tu religieux ? Est-ce que tu reconnais Dieu ? Je lui demanderai après. Mais d'abord, je découvre l'homme. L'homme qui existe. Et il peut y avoir une amitié entre deux hommes. L'un religieux et l'autre qui ne sait pas ce que c'est. Faisons attention, hein. Si l'homme met une opposition positive contre le point de vue religieux, alors l'éthique humaine est falsifiée. Il y a le ver rongeur dans le fruit. Je parle d'une éthique humaine fondamentale, ouverte à l'éthique religieuse. Si elle se ferme par rapport à l'éthique religieuse, elle n'est plus humaine. Mais distinguons bien ces deux moments, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Autre chose est de dire que l'éthique humaine implique fondamentalement la découverte de ma première finalité. Ma première finalité, c'est la découverte de l'homme. Ami. C'est la première finalité. Donc, autre chose est dire que ma première finalité, c'est l'homme ami. Autre chose est dire, c'est la seule finalité. Parce que si je dis que c'est la seule finalité, je détruis cette seconde finalité qui est à la découverte du Dieu créateur. Alors ça, ce n'est plus vrai. J'introduirai donc à l'intérieur de l'éthique humaine une négation que l'éthique humaine, comme éthique humaine, n'implique pas. Petite distinction très importante. Autrement dit, c'est les deux manières de parler de la laïcité. Le laïc, c'est l'homme considéré comme ami. Mais le laïc, c'est l'homme considéré comme ami, en comprenant que cet homme doit rejeter Dieu pour rester un homme. Et que l'intrusion de Dieu dans l'homme fausse la perspective de l'amour d'amitié. C'est la laïcité active. Oui, il faut toujours bien distinguer les deux. J'espère que vous voyez ça. Si vous ne voyez pas, notez votre objection. Parce que c'est capital, ça. Il faut à tout prix voir ça clairement. Donc, je précise, hein, que l'éthique religieuse ne peut être philosophique que si elle est d'abord humaine et fondamentalement fondée sur l'amour d'amitié. Une éthique philosophique qui se présenterait tout de suite religieuse ne serait plus une éthique philosophique. Elle serait existentielle. Elle serait descriptive. Elle n'impliquerait plus d'analyse. Donc elle ne serait plus philosophique. Pourquoi ? C'est très simple. Vous n'avez pas présence immédiate de Dieu. Alors votre éthique reposerait non plus sur l'expérience, mais sur un a priori. Et cet a priori consisterait à dire l'homme est essentiellement religieux. Je dis pourquoi ? Ah, parce que le point de vue de la foi me le dit. L'homme est essentiellement une créature de Dieu. Oui, mais alors vous n'avez plus une éthique philosophique qui ne repose plus sur l'expérience. À quel moment l'expérience humaine m'oblige d'étudier l'éthique ? À quelle expérience, à quel moment l'expérience humaine réclame-t-elle une analyse philosophique nouvelle qu'est l'éthique ? Nous l'avons vu en regardant le fondement d'éthique. C'est lorsque j'expérimente en moi une responsabilité. J'expérimente en moi l'exigence d'une relation d'un type tout à fait particulier, qui est une relation personnelle, humaine, libre, avec un autre homme. Puisque c'est quand je suis en relation avec un autre homme, que je sens ma responsabilité. Tandis que vous ne la sentez pas du tout avec l'animal. J'ai un petit chien. Y a-t-il une éthique de l'homme avec le petit chien ? Non. Ça fait simplement un dressage. Pour que le chien soit propre, tout simplement. Parce que si le chien n'est pas propre, vous voyez, c'est très ennuyeux pour la maîtresse de maison. Alors, elle aura progressivement, elle va rejeter le chien de la maison. Disant vraiment, ce chien est assommant, il double mon travail. Il le triple, il le quadruple. Je dois nettoyer 4 fois ma maison. Alors, mettons-le en dehors de la maison. Avant qu'on soit un petit chenil. Il n'entrera jamais ici. Fais ce que tu veux de ton chien pour tes promenades, mais surtout qu'il n'entre pas dans la maison. Oui. Votre relation avec le chien n'est pas une relation éthique. C'est une relation de dressage. Du propriétaire du chien avec le chien. Et pas nécessairement de la maîtresse. En épousant un homme comme un ami, elle n'a pas épousé le chien. Mais c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense de faire ces distinctions. Il y a des drames à l'intérieur de la famille qui peuvent provenir de ça, le chien ou le chat. Tout simplement. Parce qu'on ne voit pas assez